Si tu aimes lire ou écrire, le podcast et la newsletter La Voix des mots sont peut-être faits pour toi. Je suis Mauna Vigam, alias Mauna Poésie. Je suis une autrice plurielle de livres qui créent des arcs-en-ciel les jours de pluie. J'ai publié 2 recueils de poésie contemporaine, dont l'un a dépassé les 1000 ventes. Et j'écris actuellement de la poésie encore, et des romans. La Voix des mots est un podcast et newsletter d'écriture, d'édition et de bien-être. Je te partage tout ce qui anime ma vie d'autrice, m'inspire, me questionne ou me bouscule pour écrire mes livres. Je te parle donc aussi de mes doutes et de mes victoires, en toute transparence, pour que cela te soit utile. De temps en temps, j'annoncerai ou partagerai des exclusivités réservées aux abonnés. Je t'invite donc à t'abonner à la newsletter et au podcast pour ne pas les louper. Si tu souhaites me soutenir, tu peux laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pense aussi à partager les épisodes à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci et bienvenue dans La Voix des mots. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Normalement, j'étais partie pour vous proposer un nouvel épisode, une nouvelle lettre toutes les 2 semaines, mais je souhaitais revenir sur 2 événements en particulier qui ont eu lieu la semaine dernière et que je souhaitais vous partager. Le premier est le fait que j'ai 3 mois pour écrire un roman. J'ai 3 mois parce que je réponds à un appel à manuscrit que j'ai vu passer sur Instagram il y a 2 semaines. J'ai assisté au live de cette maison d'édition la semaine dernière pour savoir quelles étaient les conditions de participation à cet appel à manuscrit. Et il s'avère que ce qu'elles attendent correspond beaucoup au roman pour lequel j'avais envie d'écrire, que j'avais mis de côté, parce que j'avais du mal à m'immerger dans l'histoire et à la porter. Et finalement, depuis 3-4 semaines, donc depuis que j'ai de nouveau ce sentiment d'alignement avec ce que j'ai envie de vous partager et ce vers quoi j'ai envie d'aller, l'histoire a commencé à refaire surface dans ma tête. Et je pensais que j'aurais plusieurs mois pour l'écrire tranquillement, parce que je voulais pas me mettre de pression et parce que j'ai aussi ce troisième recueil que j'ai envie de mener à bien et cette saga afrofuturiste, sur laquelle j'ai envie de me pencher. Donc j'ai beaucoup de sujets en tête cette année et il y a beaucoup d'activités aussi qui vont arriver au fur et à mesure dont je vous parlerai dans les prochains épisodes. Donc j'avais envie de prendre le temps, sauf que cet appel à manuscrit s'est présenté et que je pouvais pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté. Dans ce que les éditrices attendent, il y a trop de choses qui font écho à ce que j'ai envie de partager. Déjà, la possibilité d'écrire un roman en vers libre, c'est rare qu'une maison d'édition l'accepte, il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai effectué des recherches il y a quelques mois, je n'avais pas trouvé beaucoup. Donc déjà, ça, c'est un gros point. Le fait aussi qu'on accepte des thématiques dures, difficiles, que ce soit destiné aux jeunes adultes, donc young adults. Tous ces éléments font que je ne peux pas passer à côté de cette opportunité et que même si le délai est assez court, je dois faire en sorte de pouvoir être en capacité d'envoyer ce manuscrit. Et on ne se parle pas d'envoyer juste un premier jet. On se parle d'envoyer un roman de qualité professionnelle, c'est-à-dire qu'il soit en capacité d'être publié. Ça veut bien évidemment dire aussi que ça n'enlève pas le fait que la maison d'édition va apporter des corrections à ce manuscrit si elle le choisit. Bien évidemment, c'est son travail. Donc, tout ce qui sera ajout, retrait de texte, formulation, structure, etc. Mais, en tout cas, je dois être en capacité d'envoyer quelque chose d'abouti qui montre que je maîtrise mon sujet, qui montre que j'ai compris ce que c'était qu'un bon roman, un roman qui se vend, un roman qui plaît. Un roman dont peut-être on peut même faire un best-seller. Et tout ça, normalement, ça prend un peu de temps, quoi. 3 mois, c'est un peu court pour faire tout ça, parce que ça veut dire qu'il va falloir que déjà je fasse ce premier jet, que je le fasse relire, que je fasse une réécriture, que j'adapte des choses au regard de ce que me diront à la fois mes alpha lecteurs et mes bêta lecteurs. Donc ça fait pas mal de choses à faire en 3 mois. Mais si vous me connaissez depuis un certain temps, si vous êtes là depuis le début ou que vous avez écouté les précédents podcasts, les précédents épisodes, vous savez que j'ai écrit et auto-édité mon premier recueil de poésie en 1 mois, avec tout ce qui va avec. La création d'un site, me renseigner sur comment auto-éditer un ouvrage, bref, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais tout ça pour dire que
Je pense aussi qu'une part de moi fonctionne au challenge et à la pression de la deadline. Voilà, je dois me l'avouer. Je pense que j'aurais bizarrement plus de facilité à tenir ce délai de 3 mois et à produire quelque chose de professionnel que si j'étais restée sur ma deadline de la fin d'année où j'allais peut-être faire traîner les choses en longueur ou qui peut-être était aussi une forme de fuite en avant, d'éviter de me confronter aux enjeux que sont l'écriture d'un roman. Donc, je suis contente d'avoir vu passer cet appel à manuscrit. Je suis contente de faire en sorte d'y répondre. Et on verra. On verra ce que ça donnera. En plus, pour une fois, il n'y a pas... C'est un appel à manuscrit qui n'implique pas qu'il n'y ait qu'un seul roman qui soit choisi. Donc, nous pouvons être plusieurs à avoir nos manuscrits édités. Raison encore supplémentaire pour y participer. Donc, je vais vous parler dans les prochains épisodes de podcast, de temps en temps, de l'avancée de ce manuscrit. Je compte aussi vous partager des extraits une fois que j'aurai fini le premier jet et que j'aurai bien entamé la phase de réécriture. Par contre, ces extraits seront destinés aux abonnés. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. La seconde chose dont je voulais vous parler dans cet épisode et qui est liée à ce roman, qui est lié à ce roman par la nature même de ce roman, c'est l'événement qui a eu lieu samedi dernier, le 23 mars, à la librairie Majot. On a eu l'occasion, grâce à Ariel, qui est une des poétesses avec qui j'échange, de se retrouver avec Pauline Bidissari, Fantin Martinet, Léa Mailleux, autour d'un moment de poésie, et donc avec aussi Ariel, pour partager nos textes, pour les lire devant un public. C'était incroyable. J'avais déjà fait ça il y a quelques mois, quelques années, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir créer un lien grâce à la poésie, grâce à nos expériences de vie. Et puis c'était un plaisir surtout d'être avec des personnes avec qui j'échange régulièrement et que je connais et apprends de plus en plus à connaître. Ça rajoutait à ce sentiment d'être en sécurité et d'avoir sa place, littéralement. Donc, parmi les questions que le public nous a posées, on m'a demandé pourquoi est-ce que je m'étais mise à écrire. Et j'en ai aussi déjà peut-être un peu parlé sur différents supports, mais j'ai commencé à écrire parce que j'ai grandi dans un monde où je ne pouvais pas exprimer ma voix, dans un monde où le silence était roi. Pour différentes raisons, de par l'éducation que j'avais, de par le fait d'être une enfant issue de l'immigration, d'arriver en France à l'âge de 4 ans, de par le fait d'avoir peur aussi, je pense, de ce pays, de cette nouvelle vie. Et je pense que c'est aussi dans ma nature d'être quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Alors, ça peut paraître paradoxal, je suis en train de faire un podcast. Mais il m'a fallu du temps avant d'arriver jusque-là. Et donc, c'est ce que j'ai répondu à cette question. J'écris parce que c'était le seul moyen d'exprimer mes émotions, d'exprimer ma voix, d'exprimer ce qu'il y avait dans ma tête, ce qu'il y avait autour de moi. C'est aussi de ça dont j'ai envie de parler dans ce roman, de toute cette personne, parce que je pense pas être la seule, à avoir grandi dans le silence. Parce qu'on le leur a peut-être imposé, parce qu'elles se l'ont peut-être imposé elles-mêmes, parce qu'elles avaient l'incapacité d'exprimer leurs émotions, de faire face à certaines expériences de vie, ou peut-être parce que simplement c'était ce qu'il y avait de plus rassurant et de plus safe que de faire autrement que de parler. Et je pense aussi que le fait de grandir dans le silence et de vivre dans le silence est aussi une marque de notre communauté. C'est aussi quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Et je ne sais pas trop pourquoi. Je réfléchis à la question ces derniers temps et ça va faire partie des recherches que je vais mener dans le cadre de l'écriture de ce roman. Je sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est une forme de pudeur. De la part de nos parents, de nos grands-parents, parce que on n'étale pas son linge sale en public. On garde des choses pour soi. Et quand on sait que beaucoup de familles racisées ne vont pas chez un psy, qu'on fait pas ce genre de choses, je pense que c'est aussi lié à au trauma qu'on a vécu et au fait d'avoir été silencié très tôt, tout au long de notre histoire. Et c'est quelque chose, en fait, qui s'oublie pas. C'est pas quelque chose qu'on enlève comme ça en claquant des doigts. Donc, Avant, oui, j'en voulais, je pense, à mon monde et aux adultes autour de moi pour leur refus de briser le silence. Mais aujourd'hui, en ayant grandi et en ayant pris le temps de me renseigner, de lire, de faire sauter aussi certaines croyances, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi est-ce que ce silence était présent. Mais j'ai envie d'en parler parce qu'encore une fois, je pense pas être la seule à avoir vécu ça et à vivre ça. Je pense que c'est important d'arriver à l'identifier. J'ose espérer que ça pourra permettre à des personnes, à des parents, à des jeunes adultes à prendre conscience de ça et peut-être à trouver le moyen de sortir de ce silence. Et je me focaliserai effectivement sur les afro-descendants parce que c'est ce que je suis et parce que j'ai plus de facilité à parler de quelque chose qui touche mon quotidien. Et j'aimerais participer aussi à mon échelle à diversifier les ouvrages qu'on trouve en librairie qui mettent pas encore assez en avant les personnes racisées. Alors on pourra me reprocher peut-être le fait d'avoir une action communautaire. J'ai envie de dire fine, c'est pas grave. Je vois pas ce qu'il y a de mal à parler de ce qu'on est, de ce qu'on maîtrise et de ce qu'on vit. Je suis une femme, je suis une écrivaine et je suis noire. Donc je pars de ce que je suis. Et si je voulais également vous parler de tout ça aujourd'hui dans cet épisode, c'est parce que je pense qu'il est temps aussi que j'assume certaines de mes idées, que je prenne ma place, que je m'autorise à parler de certaines choses qui m'ont choquée, qui m'ont interloquée et qui ne devraient plus exister. Et je dis ça parce que j'ai partagé une vidéo sur TikTok liée à la soirée justement de samedi, en mettant aussi en lumière quelque chose dont j'ai parlé lors de cet événement, à savoir le fait que j'avais une prof de français au lycée qui m'avait dit que, en tant que femme noire, je ne pouvais pas être écrivaine et que ce que j'écrivais, ce n'était pas de la poésie. Et parmi les commentaires qu'il y a eu sur TikTok, déjà, il y a eu un commentaire disant que, de base, je n'avais rien à faire dans ce lycée. Parce que oui, ce lycée en question, c'est l'un des troisièmes, c'est le deuxième meilleur lycée de France, si ce n'est le premier aujourd'hui. Donc déjà, ce commentaire disait que je n'avais rien à faire là, à la base, déjà. C'est pas un lycée pour les Noirs, visiblement. Ensuite, il y a eu d'autres commentaires qui parlaient de victimisation, encore. Du fait de parler de racisme alors qu'il n'y a pas de racisme. En l'occurrence, je n'ai absolument pas utilisé ce terme à aucun moment dans les posts et les images que j'ai partagées autour de ce sujet. J'ai pas eu besoin de le faire parce que je sais qu'il y a aussi d'autres commentaires qui ont pointé du doigt ce comportement raciste. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que, encore aujourd'hui, lorsqu'on partage une expérience de vie, il y a encore des gens qui la contestent, qui nous accusent de diffamation. Parce qu'effectivement, c'est aussi ce qu'il y a eu dans ces commentaires. Qui nous disent que, qu'on ment, que ce qu'on a vécu est faux, que peut-être que cette prof de français voulait dire autre chose, des commentaires qui me demandent pourquoi est-ce que j'ai besoin de me mettre en avant en tant que femme noire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de rester liée à cette condition, comme si je pouvais mettre de côté ma condition de femme et celle d'être une personne de couleur, comme si je pouvais me lever le matin et me dire « bon bah tiens, aujourd'hui je vais être blanche, et puis tiens, aujourd'hui je vais être un homme, voilà, je décide à partir de maintenant d'être un homme blanc ». Je sais pas, ce sont des questions en fait qui peut-être n'ont même pas de réponse en réalité. Mais tout ça me conforte dans l'idée que c'est important de faire partie de cette diversité, c'est important d'écrire des histoires sur nos communautés racisées, c'est important de partager nos expériences de vie, c'est important de prendre la place et de prendre position. Parce qu'en fait, si on le fait pas, les choses vont pas changer. Le racisme est présent, on aura beau dire le contraire, le racisme est présent et c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. En attendant, ce que moi j'ai choisi de faire, c'est de raconter ces histoires. C'est de parler à ceux qui en sont victimes. C'est de parler à ceux qui se reconnaissent dans ces expériences de vie et qui ont peut-être le sentiment d'être seuls. C'est de leur montrer que c'est pas le cas. Donc ce roman est dans la continuité de ce que j'ai toujours fait depuis que j'écris, créer du lien à travers des expériences de vie. Essayer avec mes mots, peut-être pas de faire rêver, mais en tout cas d'aider à penser des plaies. Donc, dans les prochaines semaines, je vous partagerai un peu quelques informations sur ce roman, sur ses thématiques, sur les lectures, les recherches que j'ai pu faire autour de ce roman. Et comme je vous l'ai dit, quand il sera prêt à être partagé à un plus grand nombre que mes alpha lecteurs actuels, je vous enverrai le lien pour y accéder. En attendant, je vous invite vraiment à vous abonner si ces sujets vous intéressent, si vous souhaitez en savoir plus. Et puis à rester à l'écoute. Je vous remercie d'être là depuis tout ce temps et de votre manière à chacun et à chacune de continuer à me prouver que mes mots ont leur légitimité d'exister. Prenez soin de vous.
Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissée, et merci de m'avoir écouté. À très vite!